Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonjour aux auditeurs et aux auditrices de Principe Actif. Donc, c'est Amnesty International pour sa seconde et dernière émission du mois de janvier, avant de nous retrouver, bien sûr, le mois prochain. Donc, une émission, on le rappellera toujours, mais jamais assez, consacrée pendant une heure à la promotion et à la défense des droits humains, comme il est dit dans le générique, puisque c'est la raison d'être des actions d'Amnesty International. Alors pour animer l'émission ce soir, il y a Dominique. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Voilà, qui n'est pas une grande spécialiste des micros et de la radio, mais qui va très bien s'en sortir, il n'y a pas de doute par rapport à ça. Vous l'avez déjà entendu pour l'émission qu'on a diffusée le lendemain de Noël, au mois de décembre dernier. Voilà, elle y a participé. Alors, on y a également Edith, alors qui n'est pas dans le studio, mais qui nous a envoyé un petit enregistrement qu'on vous passera tout à l'heure, consacré au droit à l'éducation pour les femmes en Afghanistan, un droit qui est bien malmené à l'heure actuelle sous le régime des talibans. Donc, on vous le passera tout à l'heure. Et puis, il y a Claire Lise, on lui fait un gros bisou, Claire Lise qui devait participer avec nous, qui devait être au micro ce soir, mais qui a un petit empêchement et un petit souci de santé, donc on lui fait un gros bisou, et on la retrouvera avec beaucoup de plaisir à la prochaine émission. Et alors justement, pour commencer l'émission ce soir, je règle parce que j'ai un souci de casque, voilà. Donc pour commencer l'émission ce soir, je voulais vous dire juste un petit mot, mais on va y revenir, enfin c'est Claire Lise qu'on reviendra beaucoup plus longuement dans la prochaine émission, sur bien sûr le vote de la loi Asile et Immigration, cette loi inique qui a été votée au mois de décembre par l'Assemblée, et qui a fait l'objet d'un examen par le Conseil constitutionnel qui a censuré 32 articles sur les 86 que comprend cette loi. Donc c'est déjà quelque chose, mais pour nous c'est pas du tout suffisant. Donc je vais vous lire juste le tout début d'un communiqué de presse qui a été fait par Amnesty International. Et encore une fois, Claire Lise reviendra en détail sur cette actualité lors de la prochaine émission. Donc voilà ce que dit Amnesty. Après plusieurs reports et un rejet à l'Assemblée nationale, le projet de loi sur l'asile et l'immigration, adopté suite à un accord obtenu en commission mixte paritaire, a franchi les rouages historiques portant atteinte aux personnes, historiques portant atteinte aux personnes exilées. Le 25 janvier, le Conseil constitutionnel a décidé de censurer 32 articles sur les 86 concernés. Voilà, mais j'en dirai pas plus parce qu'encore une fois, on y reviendra. Par contre, je voulais vous donner aussi une autre information en ce début d'émission qui n'a pas fait la une de l'actualité, mais qui a quand même fait l'objet d'un communiqué d'Amnesty International. C'est la récente visite qu'a fait Monsieur Emmanuel Macron, président de la République, en Inde très récemment. Alors voici ce que dit Amnesty. Alors que le président de la République, accompagné de plusieurs ministres et chefs d'entreprise en visite officielle de 2 jours en Inde pour renforcer le partenariat stratégique avec le gouvernement de Narendra Modi, qui est le premier ministre indien, à quelques semaines des élections générales dans ce pays, Jean-Claude Samouillé, le président d'Amnesty International France, rappelle que les minorités religieuses, ethniques et de genre subissent toujours de violentes persécutions dans le pays en toute impunité. Les récents événements dans le Manipur en sont le symbole, et plus encore la criminalisation par le gouvernement indien de la liberté d'expression et de réunion pacifique impose de dangereuses restrictions à la société civile. Nous alertons depuis des années les autorités françaises sur les dérives autoritaires du régime et les attaques répétées contre les institutions publiques et les contre-pouvoirs, universités, justice, médias. De nombreux groupes marginalisés et minorités du pays sont mis au ban de la société est menacée par des campagnes de haine. Amnesty International a documenté des atteintes majeures à l'état de droit et au fonctionnement libre des institutions dans le pays. En Inde, de nombreuses associations nationales et internationales de défense des droits humains, parmi lesquelles Amnesty International Inde, sont victimes de harcèlement judiciaire, d'intimidation et de fermetures arbitraires. De nombreux défenseurs des droits humains, journalistes, avocates, opposants politiques, manifestants pacifiques, universitaires et étudiants, sont en butte à des arrestations et détentions arbitraires, à des poursuites sans fondement, à la surveillance numérique illégale et à d'autres formes de violations de leurs droits, notamment à la liberté d'expression et de réunion. Le défenseur des droits humains Kashmiri Khurram Pavez, détenu depuis novembre 2021, a fait l'objet de nouvelles accusations dans le cadre d'une campagne de dénigrement et de harcèlement contre ses anciens collègues. En avril 2023, sa détention a été déclarée arbitraire par le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. L'Inde refuse par ailleurs de répondre aux demandes d'accès des rapporteurs spéciaux des Nations Unies à son territoire, malgré un engagement affiché à coopérer pleinement avec ces dernières, notamment lors de sa candidature au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, dont elle est membre. D'autres cas similaires d'Oumar Khalif et de 9 des militants du BK16 qui continuent de croupir en prison sans procès. La France ne doit pas rester silencieuse sur le bilan de l'Inde en matière de droits humains. Au nom de considérations économiques et géostratégiques, elle doit dénoncer ses graves dérives et exiger de l'Inde le respect de ses engagements en la matière, faute de quoi elle enverrait un signal politique désastreux de normalisation et d'impunité aux auteurs de graves violations des droits humains commises, encouragées ou tolérées par les autorités indiennes. La société civile doit pouvoir compter sur le soutien de la diplomatie française dans la défense de ses droits. Les autorités indiennes instrumentalisent les lois et réglementations antiterroristes afin de réprimer le travail en faveur des droits humains mené par des défenseurs, des militants, des organisations à but non lucratif dans le pays, a déclaré Akhar Patel, président du conseil exécutif d'Amnesty International Inde. Elles utilisent des accusations infondées de financement étranger, de terrorisme et des règlements financiers pour cibler, intimider, harceler et faire taire les détracteurs. L'Inde ne cesse de régresser dans tous les classements internationaux relatifs aux droits humains, quel que soit l'angle d'analyse retenu. Elle se classe 160e sur 180 pays au classement mondial de la liberté de la presse en 2023. Voilà donc ce qu'a déclaré Amnesty International par rapport à ce voyage qu'a récemment fait M. Emmanuel Macron, président de la République, en Inde. Et on va continuer l'émission. Alors, en vous parlant d'un sujet, ça fait un certain temps qu'on ne vous en a pas parlé, mais l'actualité dans les médias continue à en parler très très souvent. C'est le conflit, évidemment, entre Israël et la Palestine, et plus précisément les exactions commises par l'armée israélienne à l'heure actuelle sur le territoire de la bande de Gaza. Alors, très récemment, il y a eu effectivement une plainte qui a été déposée par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice par rapport à cette situation de guerre entre Israël et Gaza. Donc c'est ce que je vais vous parler au début de ce communiqué, et après on va faire un petit point effectivement sur ce que dit Amnesty par rapport à la situation à Gaza. Donc l'Afrique du Sud a porté plainte contre Israël devant la Cour internationale de justice, qui s'appelle la CIG en abrégé, en vertu de la Convention des Nations Unies pour la prévention et la répression de crimes de génocide concernant des allégations de génocide contre le peuple palestinien à la suite des attaques menées le 7 octobre 23 par le Hamas et d'autres groupes armés, au cours desquels près de 1200 personnes, pour la plupart des civils, ont été tuées en Israël et environ 240 ont été prises en otage. Les audiences consacrées à la demande de mesures conservatoires de l'Afrique du Sud se sont déroulées à La Haye les 11 et 12 janvier derniers. Le dossier de 84 pages déposé par l'Afrique du Sud accuse Israël d'actes et d'omissions à caractère génocidaire car commis avec l'intention spécifique requise de détruire les Palestiniens à Gaza en tant que partie du groupe national, racial et ethnique palestinien au sens large. La Cour internationale de justice est le principal organe judiciaire des Nations unies. Elle ne cherche pas à établir des responsabilités pénales individuelles. Son rôle consiste plutôt à régler, conformément au droit international, les litiges d'ordre juridique que les États lui soumettent relatifs à l'interprétation, l'implication ou la mise en œuvre de la Convention sur le génocide et à la responsabilité d'un État pour génocide. L'article 94 de la Charte des Nations Unies dispose que les arrêts de la Cour internationale de justice sont contraignants pour les parties au litige et que s'ils ne sont pas exécutés, l'autre partie peut recourir au Conseil de sécurité qui peut faire des recommandations ou décider des mesures à prendre pour faire exécuter l'arrêt. L'arrêt rendu le 26 janvier par la Cour internationale de justice qui a ordonné des mesures conservatoires en réponse à la plainte pour génocide déposée contre Israël par l'Afrique du Sud est une étape importante qui pourrait contribuer à protéger la population palestinienne dans la bande de Gaza occupée contre de nouvelles souffrances et des préjudices irréparables, a déclaré Amnesty International. L'arrêt rendu par la Cour de justice a ordonné 6 mesures conservatoires. Israël doit notamment s'abstenir de commettre des actes entrant dans le champ d'application de la Convention sur le génocide, prévenir et punir l'incitation directe et publique à commettre le génocide et prendre des mesures immédiates et efficaces pour permettre la fourniture de l'aide humanitaire à la population civile de Gaza. Surtout, la Cour a ordonné à Israël de conserver les preuves liées à l'accusation de génocide et de présenter un rapport à la Cour d'ici un mois sur toutes les mesures prises conformément à cette ordonnance. La décision rendue ce jour rappelle avec force le rôle crucial du droit international, s'agissant de prévenir le génocide et de protéger toutes les victimes de crimes atroces. Elle envoie un message clair. Le monde ne regardera pas en silence Israël poursuivre sa campagne militaire visant à décimer la population de la bande de Gaza et déchaîner la mort, le chaos et la souffrance contre les Palestiniens à une échelle sans précédent. Cependant, la décision de la Cour de justice ne suffira pas à elle seule à mettre un terme aux atrocités et aux destructions que subissent les Gazaouis. Au regard des signes alarmants de génocide à Gaza et du mépris flagrant d'Israël pour le droit international, il est urgent d'exercer une pression efficace et unie sur Israël pour que cesse cette offensive contre Gaza. Un cessez-le-feu immédiat par toutes les parties demeure essentiel, et bien que la Cour ne l'ait pas ordonné, reste la condition première pour appliquer les mesures conservatoires et mettre fin à la souffrance, à la grande souffrance des civils. L'enjeu est de taille. Les mesures conservatoires de la Cour indiquent que de l'avis de la Cour, la survie des Palestiniens à Gaza est en péril. Le gouvernement israélien doit se conforter à cette décision de la Cour sans délai. Tous les États, y compris ceux qui ont critiqué le dépôt de plainte pour génocide de l'Afrique du Sud ou s'y sont opposés, ont clairement le devoir de veiller à l'application de ces mesures. Les dirigeants des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Allemagne et d'autres États membres de l'Union européenne doivent manifester leur respect de la décision juridiquement contraignante de la Cour et faire tout ce qui est en leur pouvoir pour s'acquitter de leur obligation de prévenir le génocide. Dans le cas contraire, cela sapera fortement la crédibilité et la confiance dans l'ordre juridique international. Les États doivent aussi prendre des mesures immédiates pour prévenir les crimes de droit international, notamment en instaurant un embargo total sur les armes à l'encontre d'Israël et des groupes armés palestiniens. Et alors, bon, c'est un petit peu rébarbatif ce que je vous ai lu sans doute, mais c'était important de citer effectivement les grandes lignes de ce jugement, parce qu'il est sans appel par rapport aux exactions commises effectivement vis-à-vis des civils dans la bande de Gaza. Et donc c'est une instance officielle de l'ONU qui a rendu ce jugement. Donc pour poursuivre sur ce dossier, bon, je ne vais pas tout vous lire parce qu'il y en a effectivement pas mal de pages, mais je vais vous faire un petit résumé. Donc, Amnesty a publié à la suite de ça une lettre ouverte appelant tous les États membres de l'ONU à cesser d'alimenter la crise à Gaza et à prévenir la catastrophe humanitaire et de nouvelles victimes civiles. Nous, donc Amnesty International et d'autres organisations signataires, appelons tous les États à cesser immédiatement les transferts d'armes, de pièces détachées et de munitions à Israël, ainsi qu'aux groupes armés palestiniens, tant qu'il existe un risque qu'elles soient utilisées pour commettre ou faciliter de graves violations du droit international humanitaire et relatif aux droits humains. Les bombardements et le siège israélien privent les populations civiles des produits et services de base nécessaires à la survie et rendent Gaza inhabitable. Aujourd'hui, la population civile de Gaza est confrontée à une crise humanitaire d'une gravité et d'une ampleur sans précédent. En outre, les attaques menées par des groupes armés palestiniens ont fait environ 1200 morts. Ces groupes ont pris des centaines d'Israéliens et d'étrangers en otage, dont des enfants, et retiennent encore plus de 130 otages à l'intérieur de Gaza. Ils continuent de tirer sans discernement des roquettes sur les zones d'habitation en Israël, ce qui perturbe les classes des enfants à l'école, contraint des habitants à partir et menace la vie et la sécurité des civils. Les prises d'otages et les attaques aveugles piétinent le droit international humanitaire et doivent cesser immédiatement. Des organisations d'aide humanitaire, des organisations de défense des droits humains, les responsables des Nations Unies et plus de 153 États membres appellent à un cessez-le-feu immédiat. Toutefois, Israël continue d'utiliser des armes et des munitions explosives dans des zones densément peuplées, ce qui a de graves conséquences humanitaires sur la population locale gazaoui. Des dirigeants du monde entier ont exhorté le gouvernement israélien à réduire le nombre de victimes civiles, mais le bilan des opérations militaires israéliennes à Gaza reste très lourd, selon les récentes déclarations du secrétaire général de l'ONU. Il incombe aux États membres de mettre en œuvre tous les moyens possibles afin de garantir la protection des civils et le respect du droit international humanitaire. La dernière voie d'approvisionnement vital pour Gaza, une réponse humanitaire financée par la communauté internationale, est paralysée par l'intensité des hostilités, notamment pour les tirs visant des convois humanitaires, les coupures récurrentes des services de communication, les routes endommagées, les restrictions sur des produits essentiels, l'interdiction quasi totale des marchandises et la lourde procédure bureaucratique pour l'envoi d'aide à Gaza. La campagne militaire d'Israël a détruit une grande partie des maisons, des écoles, des hôpitaux, des infrastructures hydrauliques, des abris et des camps de réfugiés à Gaza. Ces bombardements aveugles et les dommages disproportionnés qu'ils infligent aux civils de façon répétée et systématique sont inacceptables. Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a mis en garde contre le risque accru de voir des crimes atroces être commis à Gaza et a appelé tous les États à prévenir de tels crimes. Pourtant, depuis cet appel, la crise humanitaire à Gaza s'est encore aggravée. Plus de 25 000 Palestiniens et Palestiniennes, dont au moins 10 000 enfants, ont été tués en moins de 4 mois, selon le ministère de la Santé de Gaza. Des milliers d'autres sont ensevelis sous les décombres et présumés morts. Plus de 62 000 personnes ont été blessées, dont beaucoup garderont des séquelles individuelles et des incapacités permanentes. Parmi eux, plus d'un millier d'enfants palestiniens ont dû être amputés d'un ou plusieurs membres supérieurs ou inférieurs. Un nombre indéterminé de civils palestiniens, parmi lesquels figureraient des mineurs, sont illégalement détenus selon l'ONU et doivent être libérés. Des Palestiniens et Palestiniennes continuent d'être tués presque quotidiennement dans des zones vers lesquelles le gouvernement israélien leur a demandé de fuir. Au cours de la première semaine de 2024, une frappe aérienne israélienne a tué 14 personnes, majoritairement des enfants, près d'une zone désignée par les forces israéliennes comme « zone humanitaire ». Entre guillemets. Plus de 85% de la population de Gaza, soit environ 1,9 million de personnes, ont été déplacées de force. Beaucoup ont suivi les ordres d'Israël et sont partis vers le sud où elle se retrouve aujourd'hui confinée dans de minuscules zones impropres à la vie humaine, devenues un terrain propice à la propagation des maladies. Près d'un demi-million de Palestiniens et Palestiniennes à Gaza sont confrontés au manque de nourriture et plus de 90% de la population à une insécurité alimentaire aiguë, soit la plus forte proportion jamais enregistrée par un organisme humanitaire chargé d'évaluer l'insécurité alimentaire en se fondant sur des données concrètes. Plus de 70% des habitants de Gaza et une grande partie de ces écoles et de ces infrastructures d'eau et d'assainissement sont détruites ou endommagées, et la population n'a qu'un accès très limité à l'eau salubre. Aucun établissement de santé dans l'enclave n'est pleinement opérationnel. Ceux qui fonctionnent partiellement sont submergés par le nombre de patients traumatisés et doivent composer avec les pénuries d'équipements médicaux et de médecins. Plus de 300 professionnels de santé ont été tués. Au moins 167 travailleurs et travailleuses humanitaires à Gaza ont été tués, plus que dans tout autre conflit de ce siècle. Parmi le nombre total de travailleurs et travailleuses humanitaires tués figurent des membres du personnel d'organismes de l'ONU, d'ONG et de la Société du Croissant Rouge palestinien. Gaza est aujourd'hui l'endroit le plus dangereux du monde pour tout enfant, journaliste ou travailleuse humanitaire. Les hôpitaux et les écoles ne devraient jamais devenir des champs de bataille. Ces conditions ont créé une situation de désespoir total à Gaza, amenant des hauts responsables et des organismes d'aide humanitaire à déclarer que les conditions nécessaires pour apporter une véritable réponse humanitaire à Gaza n'étaient plus réunies. Pour que cela change, le siège, les bombardements et les combats doivent cesser. Selon les Nations Unies, l'accès de l'aide humanitaire depuis le début du mois de janvier connaît une détérioration significative. Les forces israéliennes ont refusé à plusieurs reprises d'autoriser les convois humanitaires à se rendre dans les zones situées au nord de Wadi Gaza, où le risque de famine est le plus criant. Ces dernières semaines, de hauts responsables israéliens ont appelé à expulser les civils palestiniens hors de Gaza. Le transfert forcé à l'intérieur de Gaza et l'expulsion d'une partie de la population à l'extérieur des frontières, sans aucune garantie de retour, constituerait de graves violations du droit international s'apparentant à une atrocité criminelle. Nous exigeons un cessez-le-feu immédiat et appelons tous les États à mettre fin au transfert d'armes susceptibles d'être utilisées pour commettre des violations du droit international humanitaire et relatif aux droits humains. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit assumer sa responsabilité s'agissant de maintenir la paix et la sécurité mondiale et adopter des mesures visant à mettre un terme au transfert d'armes à destination du gouvernement israélien et des groupes armés palestiniens et à empêcher la livraison d'armes risquant à servir à commettre des crimes relevant du droit international, et ce, dès à présent. Tous les États sont tenus de prévenir les atrocités criminelles et de prononcer le respect des normes qui protègent les populations civiles. Il est grand temps que la communauté internationale se montre à la hauteur de ses engagements. Voilà, c'est le communiqué d'Amnesty, donc effectivement, qui a été contresigné par d'autres organisations, hein, par Handicap International, par Médecins du Monde, par Oxfam, etc., etc. Je ne vais pas tous les citer, il y en a un certain nombre. Mais bon, c'est un petit peu long cette présentation, mais ça me paraissait important de faire le point sur la situation à Gaza, parce qu'encore une fois, ce qui s'y passe, effectivement, c'est un crime, enfin c'est une atteinte au droit humanitaire le plus basique, pourrions-nous dire, et c'est quelque chose qui est tout à fait insupportable. Voilà. On va se relaxer un petit peu et écouter un peu de musique, et on se retrouve juste après.
J'ai deux bracelets d'acier qui entravent mes bras. Le bruit des bottes qui résonne, mon père a connu ça. « frapper à des portes en fer qui ne s'ouvrent pas, parler à des gens trop fiers qui ne me voient pas. Plus rester, plus partir, plus rêver, on finit naufragé, solitaire, barbelé aux frontières. Capitale douceur Paris, je dormais dans tes bras. Capitale violence aussi, je ne te reconnais pas. Toi Paris, ma beauté fatale, symbole de la France, je me suis fait casser normal par ton indifférence. Plus rester, plus partir, plus rêver, en finir, naufragé, solitaire, exilé, volontaire. Le ciel bas de novembre encore pose ses mains sur moi. Goût de fer et de sang dans la mort, je n'aime pas ce mois-là. La liste des droits de l'homme, la mélancolie, juste un homme parmi les hommes, tout seul dans Paris. Plus rester, plus partir, plus rêver, on finit naufragé, solitaire, exilé, volontaire.
Retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International pour la suite de son émission. On vient d'entendre Bernard Lavilliers, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas passé de morceau de Bernard Lavilliers. Donc Bernard Lavilliers, un morceau qui s'appelle L'Exil et qui a bien sûr rapport avec tout ce dont on vous parle dans toute l'émission qu'on anime sur l'antenne de Principe Actif. Maintenant, on va commencer un grand chapitre dans cette émission consacrée aux droits des femmes. Et c'est Dominique donc, qui va prendre la parole pour vous parler, mais elle va vous le dire elle-même.
Donc, je vais vous parler des féminicides et plus particulièrement des féminicides par arme à feu. Tuer sa compagne par arme à feu reste un mode opératoire courant. Mais malgré le renforcement de l'arsenal législatif, les violences conjugales ne donnent pas encore lieu à des perquisitions ou à des saisies systématiques. La possession d'armes à feu représente un danger exponentiel qui aurait dû élever l'alerte au niveau maximal. Il s'agit du mode opératoire dans 30% des 606 féminicides conjugaux enregistrés entre 2018 et 2022 selon les données de la délégation aux victimes, la DAV. Ce qui en fait l'arme privilégiée après les objets contendants, les couteaux de cuisine, utilisés dans 35% des crimes. L'une des promesses du Grenelle contre les violences conjugales de 2019 avait été de retirer les armes à feu dès le dépôt de plainte. Une grille d'évaluation du danger commune aux forces de l'ordre a été diffusée en janvier 2020. Elle devait permettre de mieux auditionner les dépôts de plainte pour violences conjugales. 23 questions sont listées avec, entre autres, votre partenaire ou ancien partenaire possède-t-il des armes à feu, déclarées ou non ? Rien de tel n'est encore systématisé. Malgré une législation réputée pour être l'une des plus strictes d'Europe, les armes à feu passent sous les radars dans les statistiques ministérielles. Le rapport sur les morts violentes au sein du couple, publié chaque année par la DAV, est une véritable mine d'informations. Mais il n'apporte aucun élément précis sur le type d'armes à feu ni sur leur provenance, en dehors du ratio d'armes détenues légalement ou non. À la différence des autres modes opératoires lors des procès, la défense avance très souvent la thèse du tir par accident. Mais la plupart du temps, il n'y a pas de procès. 69% des hommes se suicident à l'issue du passage à l'acte, entraînant donc la clôture de l'action publique. Il y en a 17% qui sont mis en examen et condamnés 11,5%. Selon nos données, une moitié des hommes n'avait aucune raison évidente de posséder une arme à feu, n'étant ni chasseur, ni membre des forces de sécurité, ni tireur sportif. Dans l'ensemble, les armes semblent davantage provenir d'une opportunité transmise par le bouche à oreille que du grand banditisme. On peut se procurer des armes grâce à des connaissances, le voisinage ou Internet. Ce peut être aussi l'héritage familial ou l'acquisition à une époque où la législation était plus souple. L'Union française des amateurs d'armes estime qu'entre 5 et 10 millions d'armes civiles sont détenues illégalement. Selon les données de la DAV, dans 2 cas sur 5, les armes utilisées par un conjoint ou un ex-conjoint pour tuer n'étaient ni déclarées ni détenues légalement. Sous l'impulsion du Grenelle, cette mention figure depuis 2019 sur les rapports annuels des morts violentes au sein du couple. La part d'armes non déclarées a décru ces dernières années, passant de 36% des féminicides conjugaux en 2019 à 21% de ces crimes en 2022. Peut-être grâce à la campagne nationale d'abandon de ces armes, orchestrée du 25 novembre au 2 décembre 2022 par le ministère de l'Intérieur. Quelques 150 000 armes ont été déposées dans les gendarmeries et les commissariats par des particuliers qui en avaient souvent hérité sans trop savoir comment les conserver. Pistolets à main, fusils de chasse du grand-père, carabines du grenier. La plupart d'entre elles ont été détruites, à de rares exceptions près, réservées aux vitrines de musées. 76 000 armes ont été déclarées au sein d'un nouveau module du système d'information sur les armes, qui trace numériquement toutes celles achetées depuis 2011. Autre avancée, la procédure de dépôt d'armes dans le cadre d'une ordonnance de protection a été simplifiée par une circulaire du 22 juillet 2021. En cas de refus, la justice peut perquisitionner le domicile pour procéder à la saisie et en informer le procureur. Près de 24% des féminicides ont lieu dans les communes rurales à habitat dispersé, 19% dans les bourgs ruraux, 12% dans les centres urbains intermédiaires et 1,5% dans les grands centres urbains. Et près de 52% des auteurs de crimes n'ont aucun motif de détenir une arme. Je suis perdue.
Dominique recherche sa page, mais ça va, va le faire.
Le 14 octobre 2021, un rapport du Sénat a mis en lumière ces deux doubles peines dont sont victimes les femmes dans les territoires ruraux. Un impensé dans la lutte contre ces féminicides. Intitulé « Femmes et ruralité, en finir avec les zones blanches de l'égalité », le rapport insiste sur les spécificités des conditions de vie et notamment la plus grande précarité et dépendance financière de certaines victimes vis-à-vis de leurs conjoints violents. Il y a peu de structures d'accueil pour les femmes, avec parfois des difficultés de mobilité et l'absence de transport collectif, mais aussi la crainte du regard des proches dans des zones où tout le monde se connaît et où la réputation est importante, énumère la sociologue Johanna Dagorn, qui a étudié les cas de violences conjugales dans les petites communes de Nouvelle-Aquitaine. Elle nous dit même « Le port d'armes participe au contrôle social exercé par les hommes sur les femmes. Certaines femmes ont rapporté dormir avec une carabine chargée posée au-dessus du lit. » Autre constat de nos données, les retraités sont parmi les plus vulnérables, avec près de 35% de victimes âgées de plus de 70 ans, la doyenne ayant été tuée à 92 ans. J'ai fait une connerie, mais je suis plus victime qu'elle. Si vous saviez tout ce que j'ai supporté pendant 55 ans, se défendait par exemple un homme de 82 ans lors de son procès. Nous avons répertorié depuis 2018 au moins 25% des crimes perpétrés par arme à feu évoquant un contexte de maladie, souvent Alzheimer ou une forme de sénilité. Chez les auteurs de plus de 70 ans, c'est même le premier mobile de passage à l'acte, souligne l'étude nationale sur les morts violentes au sein du couple en 2022. Suicide altruiste d'un homme qui voulait abréger ses souffrances, pacte suicidaire ou encore drame de la vieillesse. Les formules utilisées par les journaux et les autorités politiques ou judiciaires pour relater ces crimes participent à l'invisibilisation des victimes, car ils associent ces féminicides à des formes d'euthanasie sauvage, là où la réciproque, autant de femmes tuant des hommes âgés, n'existe pas. Le maire d'une commune où une femme âgée a été tuée fait ainsi état d'un mari qui a soutenu sa femme jusqu'au bout face à la maladie qu'il ne supportait plus. Là aussi, les statistiques le prouvent. Les femmes s'occupent de leur mari malade jusqu'au bout et les proches des personnes âgées, 60 ans ou plus, sont avant tout des aidantes. 69,2% sont des femmes. Je terminerai par la phrase d'une sœur de victime. En étant malade, les femmes ne peuvent plus répondre à leur obligation supposée de femme au foyer, alors les maris les suppriment. Comme le dit le rapport du Sénat, il est temps d'en finir avec les zones blanches de l'égalité.
Ben merci Dominique d'avoir abordé effectivement un sujet dont on ne parle jamais, effectivement, ces féminicides par arme à feu dont sont victimes les femmes. Et bon, cette étude est tirée aussi de la chronique. On vous rappelle que la chronique, c'est le mensuel d'Amnesty International France et c'est un sujet tout à fait intéressant, important. Important plus qu'intéressant, c'est bien évidemment, puisqu'il s'agit de la vie des femmes en France. Et moi, ce qui m'a frappé effectivement dans ce dossier, c'est que ces féminicides concernent très souvent des femmes très âgées, et ça non plus, on n'en parle pas. Quand on pense féminicide en France, qui reste un problème très important, puisque en France, toujours, si j'ai de bonne mémoire, une femme meurt sous les coups ou l'arme à feu de son conjoint, il y a un décès tous les deux jours ou tous les deux jours et demi, donc c'est un problème important. Effectivement, ces morts de femmes âgées, et ça passe, comme tu disais, sous les radars. Mmh. Et c'est important de mettre ce phénomène-là, effectivement, un peu en lumière. Donc, merci Dominique d'avoir abordé ce sujet. On va continuer sur les droits des femmes, mais on va changer complètement de pays, puisque c'est l'Afghanistan, et c'est Odile. Oh, la pauvre Odile. Elle fait aussi partie du groupe, Odile, mais c'est pas elle. C'est Edith qui vous en parle.
Alors, je vais partager avec vous un article qui est paru dans la chronique du mois de novembre au sujet des femmes afghanes. Donc la journaliste et la photo-reporter qui se sont rendus en Afghanistan préfèrent signer cet article sous un pseudonyme par peur de représailles contre elles, mais aussi contre les femmes qu'elles ont rencontrées. Car depuis la prise du pouvoir par les talibans en août 2021, aucune femme n'est plus en sécurité en Afghanistan. Certaines, prenant tous les risques, ont organisé des écoles clandestines. Donc, je vais vous parler du témoignage de cette jeune femme qu'ont rencontré la journaliste. Cette jeune femme s'appelle Maria. C'est une jeune lycéenne qui rêvait d'intégrer l'équivalent de l'école polytechnique à Kaboul. Depuis 7 mois, l'élève brillante est passée dans l'illégalité en devenant professeure au sein d'une école clandestine. Métier à haut risque en pays taliban. Depuis que les fondamentalistes ont interdit par décret l'enseignement secondaire aux Afghanes après 12 ans. Maria, elle craint en permanence une descente d'agents de la répression du vice ou des membres des services de renseignement. À Jalalabad, capitale de la province du Nangarhar, dans l'est de l'Afghanistan, 2 classes secrètes ont été fermées ces 2 derniers mois après des raids talibans. Maria explique. Il n'y a pas eu de violence physique contre les filles, mais ils ont convoqué les pères et les oncles des enseignantes, leur promettant la prison la prochaine fois. La jeune femme a d'ailleurs récupéré 7 collégiennes victimes de ces raids dans sa propre classe. Pas plus, car la crainte est trop forte. Les parents sont morts de peur. Les premiers mois, les familles étaient favorables aux écoles secrètes. Elles pensaient que les talibans fermeraient les yeux le temps de mettre en place un système éducatif à eux. Mais maintenant, on comprend qu'ils ne veulent pas nous voir étudier, qu'ils veulent nous emmurer. Les mesures de sécurité au sein de son école clandestine n'ont pas changé. Chaque élève s'y rend muni d'un Coran. En cas de contrôle, on prétexte une école communautaire islamique, une madrassa, qui, elle, reste ouverte aux filles de tous les âges. Alors, le local de Maria se trouve dans le sous-sol d'un immeuble fatigué, avec des câbles électriques sur la façade, des affichettes, où là aussi, les visages des femmes, leurs silhouettes ont été systématiquement peinturées de noir, signature de la censure talibane. À l'intérieur, 18 adolescentes assises sur un grand tapis rouge lèvent tout juste le nez sur notre passage. Les minutes sont trop précieuses. À peine 3 heures de cours par jour afin d'écarter les soupçons. Ce sont des collégiennes plutôt que des lycéennes. Plus les filles grandissent, moins elles viennent. La peur est trop grande d'être arrêtée, souffle Maria, avant d'ajouter avec pudeur. Arrêtée ou remarquée. En effet, la majorité des talibans a moins de 25 ans. Et avec la fin de la guérilla dans les montagnes, ils se cherchent des épouses. Et depuis août 2021, des unions forcées entre combattants et de très jeunes filles se multiplient, relayées sur les réseaux sociaux afghans qui semblent bien les seuls à s'en émouvoir. Alors, il s'est passé aussi une répression au printemps 2023, partout dans le pays, qui ont fermé des écoles primaires, ce qui était logiquement encore autorisé. Et on voit une radicalisation progressive du chef suprême, le discret émir, alors attention pour la prononciation, ce n'est pas sûr, Ayatollah Akhundzadeh, sur la question de l'éducation. Les deux dernières années, il a limogé trois fois des talibans responsables de l'éducation car il les a jugés trop progressistes. On sent qu'il va y avoir une rigidité et un autre danger, ça va être que le pouvoir va être homogénéisé sur tout le pays. Donc il va plus y avoir de provinces qui vont avoir une certaine souplesse qui existait encore. Donc la situation des femmes, des filles, c'est très très compliqué. Et il reste encore un petit point d'espoir, on va dire. Les talibans interdisent l'école, mais pas l'éducation. Notre espoir repose sur cette nuance. Alors c'est ce que dit Amida Aman, la fondatrice de Radio Begum, une radio pour les femmes afghanes. Lorsque l'horizon se dessine si noir, ces petits interstices de liberté se transforment en puits de lumière. Parce que les talibans n'interdisent pas aux filles d'apprendre chez elles, sa radio continue à diffuser chaque jour des programmes scolaires qui soutiennent les Afghanes et le réseau des écoles clandestines dans le pays. Cette radio atteint 10 provinces en Afghanistan. Les professeurs installent le poste radio près d'une fenêtre et suivent les cours dirigés par l'institutrice en studio. Pour ce reportage, nous avons visité 4 écoles clandestines et chaque fois, Radio Begum émettait dans la pièce. On entendait ce filet de voix cristalline rassurant. C'est pour faire sentir aux filles qu'elles appartiennent toujours à un grand ensemble, comme avant, veut croire la directrice. Alors pour le moment, la radio est épargnée d'une fermeture par le régime, car ce n'est pas le média de l'image, mais de la voix. Pourtant l'équilibre reste fragile. Plusieurs fois, des agents de la répression du vice ont averti les chroniqueuses, qui sont toutes de jeunes femmes. Pas de rire bruyant à l'antenne, pas de retransmission en direct d'auditeurs masculins. Ce qui se passe aussi, c'est que la classe moyenne urbaine afghane, qui était un groupe social très récent, est en phase d'anéantissement. Les écoles clandestines sont ciblées, c'est ce qu'on vient d'expliquer dans ce reportage. Et pour preuve, Mathilia Vessa, enseignant et grande figure rurale de l'éducation pour les filles et pour les pauvres, est emprisonnée depuis mars dernier. Alors, une auditrice de Radio Bigum conclut la chronique du jour, un programme de soutien psychologique par ces mots simples et déchirants. Quand mon fils part à l'école le matin, je file dans la cuisine pour ne pas voir ma fille le suivre du regard. Ce regard, c'est trop dur.
Voilà, de retour sur l'antenne de Principe Actif, après la petite chronique d'Edith qu'elle nous a envoyée, effectivement. De retour en direct, donc. Et merci à Edith pour cet important témoignage sur l'atteinte au droit d'aller à l'école pour les femmes en Afghanistan. Alors, on va modifier un petit peu ce qu'on avait prévu de faire, parce qu'on est toujours rattrapé par la pendule aujourd'hui encore. Donc, on va passer tout de suite à la deuxième pause musicale et on se retrouve juste après pour quelques bonnes nouvelles.
J'entends le cœur du monde battre de plus en plus fort, celui des multitudes et de la solitude. Je croise de plus en plus la haine, la peur, la mort. C'est presque une attitude, ça devient l'habitude. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés, sur ses désirs brûlés. La tête du dictateur, la tête du fusilleur, toujours en embuscade dans les rues de Bagdad. Si la démocratie peut tomber en 10 heures, si les banques surnagent, attendant le naufrage, alors nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme. Tu ne pourras plus faire demi-tour, enchaîner, 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 enchaîner. Après la guerre, on est dans l'entre-deux. On attend la prochaine, la dernière, la certaine. La guerre économique, au fond, c'est pas sérieux. Faudra bien que ça saigne des milliards, des centaines. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs. Alors viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés, sur ses désirs brûlés.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc Amnesty International, pour la troisième et dernière partie de son émission. Donc, pour faire suite à ce qui a été dit juste avant la pause musicale par Edith, par rapport aux atteintes au droit à l'éducation pour les femmes en Afghanistan, alors j'ai quand même deux bonnes nouvelles concernant l'Afghanistan. Il n'y en a pas beaucoup, mais bon, quand elles arrivent, il faut toujours effectivement s'en réjouir et les mentionner. Donc deux bonnes nouvelles qui sont arrivées l'année dernière, deux libérations de gens injustement emprisonnés par les talibans en Afghanistan. Donc Motaza Behboudi, journaliste franco-afghan détenu depuis le 7 janvier 2023, a été libéré le 18 octobre. Après plus de 9 mois de détention en Afghanistan, le journaliste de 29 ans a pu retrouver ses proches. Il était accusé d'espionnage par les talibans qui, depuis leur retour au pouvoir en août 21, n'ont cessé de réduire drastiquement les droits fondamentaux de la population, comme le rappelait effectivement Edith. Autre bonne nouvelle, ça concerne Matula Veza, militante afghane pour le droit à l'éducation, donc c'est tout à fait dans le sujet, a été remise en liberté le 26 octobre. Elle aura passé plus de 7 mois en prison pour avoir critiqué la politique des talibans qui interdit aux filles de poursuivre leur scolarité en secondaire. Jusqu'à sa libération, nos militantes et militants ont activement fait campagne pour la libération de Matula Veza. Et la troisième personne, alors c'est pas en Afghanistan, c'est en Iran, un grand pays aussi qui réprime les droits humains fondamentaux. Et moi, ça me touche particulièrement parce qu'on en avait parlé de cette prisonnière en Iran dans différentes émissions et on avait beaucoup agi pour elle. Elle s'appelle Yasaman Ariani, défenseur des droits des femmes et militante contre le port obligatoire du voile en Iran, a été libérée le 15 février 2023. Ça va faire bientôt un an, après 4 ans de prison. La jeune femme avait été condamnée pour avoir distribué des fleurs blanches dans le métro de Téhéran à plusieurs Iraniennes à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Un acte poétique qui résonne comme une ode à la liberté qu'elle a fait courageusement en retirant son voile. C'est cet acte qui l'a conduite en prison. Yasaman Ariani est devenu un véritable symbole de la lutte pour les droits des femmes en Iran. Voilà. Encore une fois, moi, cette libération, enfin, elles sont toutes importantes, mais celle-ci me touche particulièrement. Voilà. Alors, on va s'approcher tout doucement du terme de l'émission. On va vous faire un appel à l'action. Ça fait quelque temps qu'on ne l'avait pas fait sur l'antenne de Principe Actif. Donc, un appel à l'action. On vous rappelle que donc l'appel à l'action, ça consiste à écrire des lettres auprès des autorités qui sont responsables d'atteinte aux droits humains fondamentaux. Et là, on va vous demander d'écrire auprès des autorités vénézuéliennes et donc d'écrire des lettres. Alors, ces lettres, elles sont toutes prêtes, hein, évidemment, vous pouvez les compléter, mais ce n'est pas la peine effectivement de les réécrire. Il y a des modèles qui sont proposés. Et pour avoir ces modèles, bah, vous nous envoyez un petit mail à evreux@amnistyfrance.fr, evreux@amnistyfrance.fr. Et donc, on vous renverra le modèle de lettre à envoyer auprès des autorités vénézuéliennes. Alors, voilà pourquoi on vous demande d'écrire à ces autorités. Le 9 janvier 2024, l'Assemblée nationale a repris l'examen, donc au Venezuela, a repris l'examen d'un projet de loi visant à restreindre et potentiellement poursuivre en justice et fermer les ONG menant des activités au Venezuela. Ce projet de loi avait été approuvé à l'issue d'un premier vote le 24 janvier 2023 et son adoption définitive pourrait être imminente. S'il est adopté, toutes les ONG devront respecter des mesures abusives sous peine de poursuites pénales. Ces mesures bafoueraient entre autres les droits à la liberté d'association et à la vie privée et exposerait les ONG et leurs bénéficiaires à un grave risque de poursuites judiciaires et de représailles. Nous appelons instamment l'Assemblée nationale vénézuélienne à mettre immédiatement ce projet de loi au rebut et à casser toutes les attaques contre la société civile. Donc il faut envoyer ces appels auprès de Roger Rodriguez, donc qui est un procureur au Venezuela, avec une copie auprès de la République bolivarienne du Venezuela, l'ambassade à Paris. Donc encore une fois, cette lettre, elle est toute prête. Hein, et n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vous l'envoie, pour que vous puissiez faire pression auprès des autorités vénézuéliennes. C'est aussi ça, le travail d'Amnesty. Et ça me fait penser que j'ai complètement oublié, à la suite de la chronique d'Edith, on est passé à la musique, mais je voulais effectivement vous rappeler aussi qu'il y a actuellement une pétition sur le site d'Amnesty, amnesty.fr, une pétition lancée par Amnesty France auprès du président de la République, Emmanuel Macron, en lui demandant, ça fait suite à la chronique d'Edith sur les atteintes au droit à l'éducation des femmes en Afghanistan, réclamant aux autorités françaises des visas pour la liberté des femmes afghanes persécutées. Alors le but de cette pétition, je ne vais pas vous lire tout le texte, mais le but de cette pétition, c'est de demander aux autorités françaises de faciliter l'arrivée des réfugiés et des exilés afghanes en France, effectivement, pour qu'elles puissent se mettre à l'abri et voir leurs droits effectivement respectés, puisqu'en Afghanistan, pas seulement leurs droits à l'éducation, mais en Afghanistan, leurs droits en tant que femmes, leurs droits fondamentaux, sont extrêmement réprimés. Donc on demande aux autorités françaises de faciliter la venue des femmes afghanes en France pour qu'elles puissent se mettre à l'abri. Donc n'hésitez pas à signer cette pétition. Voilà, j'ai réparé le petit oubli de tout à l'heure. Actualité locale, c'est des actualités radio qu'on a principalement en ce moment, le temps que je reprenne la page où j'avais noté. C'est pas celle-ci. On finit par se mélanger dans les papiers. Voilà, j'ai retrouvé. Donc, actualité locale, nous, on se retrouve à la radio après-demain. Alors, on avait une émission qui était prévue le 18 janvier, mais qu'on a dû reporter parce que, à cause du verglas, c'est une émission qu'on devait faire depuis le collège de Navarre. Mais à cause du verglas et des très mauvaises circulations, il n'y avait pas de transport scolaire ni de bus. Donc on a annulé l'émission puisque ce n'était pas possible de la maintenir. Et on l'a fait le jeudi 1er février, donc après-demain. C'est avec le club de web radio du collège, le club de littérature et des enseignants du collège et des jeunes, collégiennes et collégiens. Et c'est consacré aux droits liés au corps. Donc un grand sujet, effectivement, c'est jeudi prochain, donc depuis le collège de Navarre, en direct sur l'antenne de Principe Actif, de 18h à 19h30. Et c'est dans le cadre des émissions Fréquence Droits Humains. Donc n'oubliez pas de nous écouter, donc jeudi, après-demain, à 18h, sur l'antenne de Principe Actif, en direct depuis le collège de Navarre. Et nous, on se retrouve pour notre prochaine émission Amnesty, c'est le mardi 13 février, à 19h sur l'antenne de Principe Actif. Voilà. On va terminer, on va rendre l'antenne au laboratoire et à son émission. Et je voulais juste demander quand même à Dominique une question piège. Alors qu'est-ce que tu penses de ton intervention à la radio? Parce que Dominique est un peu intimidé par le micro. Voilà. Comment tu ressens les choses? Elle est morte de rire.
C'était un petit peu mélangé, mais
bon, ah non, pas ça, du ça tout, été. Pas ça du a tout, été. Ça a bon. Été. Oui, bon. Tout à fait, c'était très clair et c'était encore un sujet sur les femmes françaises victimes de féminicides par arme à feu. C'était un sujet très, comment dire, original, entre guillemets, mais important. Effectivement. Voilà, on vous dit à très bientôt. On laisse l'antenne au laboratoire et rendez-vous pour nous, donc, pour l'émission Amnesty, le mardi 13 février, que je vous dise pas de bêtises. Oui, le mardi 13 février prochain. Voilà. Bonne soirée à tous.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.